Le mois prochain, le sujet que j'avais choisi était prière vocale et prière du cœur. C'est une entrée dans une question déjà un peu plus particulière, mais assez pratique. Et au mois de décembre, la règle de prière quotidienne du chrétien. Ensuite, je n'ai pas, pour les mois suivants, je n'ai rien prévu de très précis, mais on me suggérait aujourd'hui, à midi, au cours du repas, de prendre peut-être pour le mois de janvier comme sujet de Notre Père. C'est de Notre Père pour déjà des problèmes de traduction, puisqu'on trouve des traductions très diverses partout, et je pense qu'il serait bon, en une ou deux conférences peut-être, de commenter le Notre Père et en même temps d'élaborer un projet de traduction, au moins que nous pourrions utiliser ici, et aussi au Notre Père. Donc aujourd'hui, le thème de cet entretien, c'est la prière dans la vie du chrétien. On trouve dans la tradition chrétienne de nombreuses définitions, de nombreux essais de définition de la prière, qui toutes ont leur intérêt. Je crois qu'on peut dire très simplement que la prière est l'activité par laquelle nous entrons en relation consciente avec Dieu. Cela laisse place à bien des manières, bien des modes selon lesquels cette communion consciente avec Dieu peut s'exprimer. Mais s'il s'agit d'une prière chrétienne, je pense qu'il faut bien préciser deux choses. La première, c'est le caractère essentiellement filial de cette prière. Et filial dans un sens très, très fort, très dogmatique. Je reviens un instant. Et d'autre part aussi, le caractère personnel de la prière chrétienne. Prière filiale. En effet, dans la vie du chrétien, la prière est l'un des fruits de la recréation de notre cœur, de la transfiguration de notre cœur par la présence du Saint-Esprit. Et la prière chrétienne suppose donc normalement ce qu'on peut appeler l'initiation chrétienne, les sacrements d'initiation, le baptême, confirmation, l'Eucharistie aussi normalement, donc l'entrée dans l'Église. Bien sûr, le Saint-Esprit est libre de ses dons et peut agir et agit dans le cœur d'homme droit qui, pour des raisons dont Dieu seul est juge, ne sont pas entrés ainsi dire dans l'Église, mais le lieu normal de la prière chrétienne, c'est l'Église et donc l'entrée dans l'Église par les sacrements de l'initiation. Et certains maîtres spirituels sont très sensibles à cela et veulent éviter tout équivoque. Je me souviens qu'un jeune Français avait fait un long séjour en Serbie auprès du père Justin Popovitch pour apprendre de lui la prière de Jésus. Et il est resté près de 6 mois, je crois, auprès du père Justin. Et le père Justin n'a pas cessé de lui dire, mais devenez d'abord orthodoxe. Si vous devenez orthodoxe, je peux vous enseigner la prière. Si vous ne l'êtes pas, je ne le peux pas parce que je suis en dehors de mon terrain, du terrain que je connais. Bon, Dieu est libre de ses dons et de faire ce qu'il veut, mais moi, je ne peux vous enseigner la prière que si vous êtes dans l'Église. Et ce n'est pas une exigence arbitraire, mais c'est simplement, c'était de sa part, uniquement loyauté, je dirais. Donc, prière filiale. Il faut se référer ici au texte de saint Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 8. Vous connaissez cet admirable texte. Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait nous écrier Abba, Père. Abba, le mot araméen, n'est-ce pas, qui exprime cette filiation divine. L'esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Autrement dit, l'esprit suscite en nous une attitude intérieure filiale à l'égard du Père. Parce que nous sommes vraiment fils de Dieu, nous participons à la nature divine par le don de l'Esprit qui nous est fait, qui est inscrit, qui est dans notre cœur. Et saint Paul poursuit un petit peu plus loin, « L'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons que demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous, en nous, saint Paul ne dit pas en nous, mais le contexte l'implique, en des gémissements ineffables. » Si bien que la prière chrétienne, si vous voulez, consiste essentiellement dans une adhésion personnelle, volontaire, consciente, à un mouvement profond, à un désir de Dieu, à un désir filial de communion avec Dieu que l'Esprit-Saint suscite en nous, que l'Esprit-Saint que nous avons reçu par le baptême suscite en nous. Et par là même, cette prière chrétienne est un exercice conscient de la foi, de l'espérance, de la charité. Et c'est pourquoi on peut dire que la prière dans la vie du chrétien n'est pas seulement un moyen, n'est pas seulement une voie, mais d'une certaine manière, dans la prière, le chrétien atteint déjà, je dirais, ce qui est le but de sa vie, ce qui est sa destinée dans le dessein de Dieu, la communion consciente avec Dieu. Et notre vie du ciel, notre vie eschatologique pendant l'éternité, ne s'en passe autre chose que cela, et la prière en est déjà comme l'apprentissage, comme l'ébauche ici-bas. Mais le texte de saint Paul dans l'Épître aux Romains nous fait entrevoir des perspectives encore plus larges. Il nous dit ceci. Nous le savons en effet, toute la création jusqu'à ce jour gémit en travail d'enfantement. Et non pas elle seule. Nous-mêmes qui possédons les prémices de l'Esprit, l'avant-goût du don eschatologique de l'Esprit, du don de l'Esprit qui sera plénier à la fin des temps, nous gémissons aussi intérieurement dans l'attente de la rédemption de notre corps. Si bien que saint Paul voit tout l'univers traversé d'une sorte d'aspiration intérieure, tout est fait pour Dieu, même les créatures inanimées, et toute la création est comme pénétrée, comme traversée de cette aspiration vers Dieu, vers la transfiguration justement de tout l'univers en Dieu à la fin des temps. Quand Dieu sera tout en tous, quand toutes les créatures sont vraiment transparentes à la présence de Dieu. Et cette aspiration qui est inconsciente dans les créatures, qui existe en elles sans qu'il y ait de leur part une coopération, sans qu'il y ait de leur part une prise de conscience et un consentement, eh bien c'est cela qui se retrouve en nous, c'est cela que le Saint-Esprit pousse, si je puis dire, à son paroxysme dans nos cœurs, mais notre prière, finalement, n'est pas autre chose que l'écho dans notre âme de chrétien de cette aspiration vers Dieu, de cette aspiration vers la transfiguration totale par l'Esprit-Saint qui traverse toute la création. Et tout à l'heure, je vous dirais que la prière chrétienne comporte deux temps, en quelque sorte, fondamentaux. D'une part, la supplication, et d'autre part, l'action de grâce et de la louange. Et l'on peut dire, justement, que la supplication en nous est une sorte de communion à cette supplication universelle, cette aspiration universelle de la création vers Dieu, et que notre louange, à laquelle les psaumes si souvent associent toute la création, est aussi déjà comme une sorte d'anticipation de cette louange de Dieu qu'exprimera toute la création transfigurée à la fin des temps. Donc vous voyez, c'est cette dimension de la prière proprement chrétienne qui nous met au cœur de notre adoption filiale par le Père dans le Christ et qui déjà anticipe en nous et nous oriente vers cette transfiguration de nous-mêmes et de nos âmes, de nos corps et de tout le cosmos par l'Esprit-Saint à la fin des temps. C'est tout cela qui déjà est comme présent, comme en germe, comme à l'œuvre dans notre prière chrétienne. Et toute la méthode, toute la pratique de la prière chrétienne consistera simplement dans les conseils que les maîtres spirituels, les pères, ont pu au cours des temps élaborer pour nous expliquer, nous montrer comment éveiller en nous cette aspiration vers Dieu, comment prendre conscience, comment y adhérer. Il y a deux passages dans les récits d'un pèlerinage où on retrouve cette idée et où justement est souligné ce rapport qu'il y a entre la prière du cœur et puis l'aspiration cosmique universelle vers Dieu. Et les récits du pèlerin nous disent, mais précisément, toute la philokalie n'est pas autre chose qu'un ensemble de conseils réunis tout au long de la tradition chrétienne pour nous montrer comment prendre conscience de cette présence de l'Esprit en nous, de cette prière du Saint-Esprit en nous. Donc, prière chrétienne, prière filiale, prière qui ne peut se comprendre que dans ce contexte de notre adoption par le Père dans le Christ, par l'Esprit-Saint. D'autre part, caractère personnel de la prière chrétienne. La prière chrétienne n'est pas seulement un exercice de concentration, de méditation qui nous amènerait à nous trouver nous-mêmes, à nous retrouver nous-mêmes, à parvenir à une certaine pacification, unification intérieure. elle n'a pas non plus pour but de nous absorber dans un absolu indifférencié. La prière chrétienne consiste à parler en tant que personne humaine à un Dieu personnel. Assurément, Dieu n'est pas, si je peux m'exprimer ainsi, un individu extérieur à nous. Dieu nous est intérieur, infiniment intérieur, infiniment présent au plus intime de nous-mêmes. Et la prière tend à établir une communication, une communion avec Dieu, et qui est comme une pénétration de notre être par le rayonnement des énergies divines. La prière, dans la prière même, nous unissons à Dieu, pour reprendre les prénoms des pères, un peu comme le fer rouge, enfin le fer rougi est uni au feu, comme le cristal pénétré par la lumière est uni à la lumière. Donc ce n'est pas du tout un rapport extérieur avec Dieu. Mais en même temps, cependant, la prière chrétienne laisse toujours subsister une certaine dualité personnelle entre Dieu et nous, ce qui permet un dialogue, ce qui permet une communion dans l'amour. Et ceci est au-delà de nos conceptions terrestres. Enfin, pour nous, une personne autre que nous est toujours en quelque sorte extérieure à nous. Et c'est seulement dans l'expérience de la communion avec Dieu que nous pouvons réaliser comment on peut à la fois être deux et être un. Comme dans la Sainte Trinité, les trois personnes divines, finalement, sont trois, tout en étant un, n'est-ce pas ? Trois personnes dans une même essence. Et bien là, dans la prière, où nous pouvons entrer dans ce mystère de notre éducation, de notre communion avec Dieu, dans notre prière, nous est déjà donné cette union avec Dieu, cette communion profonde, dans une unité d'énergie, dans une unité, dans une compénétration profonde de l'action, de l'agir divin, de l'être divin et d'une autre, et laissant cependant subsister nécessairement cette dualité, si on peut ainsi s'exprimer, soit qui nous pose devant Dieu comme les partenaires d'un dialogue dans la foi, dans l'amour, dans une communion qui reste où chacun reste conscient. Et c'est dans cela que la prière chrétienne différera, soit des méthodes de méditation, par exemple bouddhiste ou autre, enfin inspiré souvent de l'extrême-orient, qui n'ont pas exactement le même but, qui n'ont pas exactement la même finalité. Ils se situent en dehors de ce contexte chrétien d'une communion et d'une participation à la vie divine dans cette communion personnelle. Et par conséquent, les méthodes seront aussi différentes. Et je dirais même que les méthodes auront peut-être moins d'importance parce que dans la mesure où il s'agit, par l'exercice de ces facultés humaines, de parvenir à certains résultats spirituels, les méthodes vont être pratiquées avec une extrême rigueur et auront une importance absolument primordiale, alors que dans la prière chrétienne, ce qui a tout même le primat, c'est la grâce divine, et ce qui nous est demandé, c'est une coopération à cette grâce. Et une certaine part de méthode, bien sûr, et d'éducation de la prière est importante, mais ces méthodes sont d'abord différentes pour une large part d'autres méthodes de méditation, et surtout le but qu'elles poursuivent est tout de même différent. Encore que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Dieu est libre de ses dons, et des méthodes, des techniques qui, en elles-mêmes, n'ont pas d'autre but que de parvenir à un résultat qui est proportionné, qui n'ont été d'ordre humain, peuvent en même temps coexister avec une vie spirituelle très authentique où l'homme s'ouvre à la grâce de Dieu sans savoir le nommer, sans savoir le reconnaître, et peut parvenir alors par cette voie à une authentique expérience de Dieu. Et être sans avoir une conscience claire, formulable, être en contact réel avec le Dieu chrétien. Mais ceci est le secret de Dieu. Et de soi, des méthodes, des techniques qui ont pour ambition de parvenir à un résultat, je dirais, nécessaire, si elles sont bien employées, est un autre ordre que la grâce, que la prière chrétienne. C'est pour cela que dans les monastères chrétiens, par exemple, l'exercice de la prière n'a pas toute la rigueur, toute l'importance que la méditation pourra avoir, par exemple, dans un monastère bouddhiste. Enfin, nous n'avons pas très loin de chez nous, pas très loin de notre monastère de Saint-Laurent, un centre spirituel bouddhiste tenu par des Tibétains, qui sont des hommes extrêmement sérieux et ce n'est pas du tout du folklore à bon marché, et ils ont là des sessions de prière, de méditation, plutôt pas de prière, puisqu'il n'y a pas de lieu personnel pour eux, n'est-ce pas, mais qui sont d'une exigence auxquelles peu de chrétiens se soumettraient volontiers, je crois, des journées entières, on a 7 heures presque d'affilée de méditation. Et c'est très compréhensible parce que là, tout dépend de l'exercice, de la pratique rigoureuse d'une méthode. Et le résultat est proportionnel à l'utilisation de cette méthode. Donc, très grande rigueur est nécessaire. Un maître spirituel bouddhiste, un zen, le zen de Shimaru, qui est mort il y a quelques années, me disait que, bon, en France, ceux qui font du zen ne font rien de très sérieux, parce qu'on estime au Japon que, au moins pendant les deux premières années, un adepte du zen doit consacrer au moins 9 heures par jour à la méditation. Dans les massacres chrétiens, il n'y a rien de semblable. Il y a des offices liturgiques, mais c'est tout à fait autre chose, parce que là, c'est justement une communication avec un Dieu personnel. C'est autre chose qu'une technique qui doit être appliquée très rigoureusement pour parvenir à un but qui lui est proportionné, qui est du même ordre. Cette conception de la prière nous montre que pour un chrétien, la prière est une nécessité absolument vitale. La prière est un peu à la vie du chrétien ce que la respiration est à la vie naturelle de l'homme. C'est par la prière que nous pouvons vraiment nous brancher sur le Christ, que nous pouvons recevoir sa vie en nous, que nous entrons en véritable communion avec lui. Quand saint Jean emploie dans son évangile l'expression « demeurer dans le Christ », ce n'est pas seulement la prière qu'il envisage. Demeurer dans le Christ pour saint Jean, c'est aussi pratiquer les commandements du Christ, pratiquer les préceptes du Christ. Mais je crois que c'est d'abord par la prière que nous pouvons ainsi demeurer dans le Christ, rester comme greffés sur lui. Et vous connaissez ce texte du chapitre 15 de saint Jean, dans le discours du Seigneur après la scène. « Je suis la vraie vigne. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut porter de lui-même de fruits sans demeurer sur la vigne, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Dans notre vie spirituelle, bien sûr, il faut qu'il y ait l'exercice de notre liberté, le consentement de notre liberté à l'action de la grâce, mais il faut d'abord que nous soyons hantés sur le Christ, greffés sur le Christ, branchés sur le Christ. Et ça, c'est par la foi, et la foi s'exprimant dans la prière, dans le dialogue conscient avec le Christ, que cela peut se réaliser. Voici un texte d'un auteur français du siècle dernier, que j'ai eu l'occasion de citer il y a déjà quelques années ici même. Il est écrit dans le style du 19e siècle, mais très inspiré d'ailleurs de saint Jean Chrysostome. On retrouve beaucoup d'idées qui sont dans saint Jean Chrysostome et qui expriment très très bien cette nécessité vitale de la prière pour le chrétien. Un des remèdes principaux à notre faiblesse, et l'on pourrait dire à certains titres le remède fondamental à notre faiblesse, quelle qu'en soit la cause et quelles qu'en soient les formes, est la prière. Et par prière, nous n'entendons pas cette récitation de formules qui consiste à murmurer extérieurement des paroles, à les prononcer avec cette froide monotonie du cœur qui les rend presque semblables au mouvement uniforme des atomes du sablier que l'on voit tomber avec une constante régularité. Donc la prière n'est pas un simple mécanisme verbal. Nous voulons parler surtout de cette grande et large prière telle que la pratiquaient les saints, de cette prière qui saisit l'âme tout entière, qui la verse en Dieu, qui prend les racines de la vie et les enfonce tous les jours davantage dans la profondeur de l'être divin pour donner aux rameaux extérieurs plus de force et de puissance dans leur dilatation. C'est bien ça, par la prière, se greffer sur la vraie vigne qu'est le Christ. Le vrai point d'appui de l'âme est en Dieu, et c'est par la prière que nous reposons notre âme en Dieu. C'est dans la prière, quand elle part du cœur, que nous scellons, que nous rivons de plus en plus notre être tout entier à la colonne de l'éternité. Et dès lors, ni les flots de la vie, ni la violence des vents, ni la secousse des créatures ne peuvent ébranler le fondement de notre existence. Si nous ne pouvons préserver de toute agitation la partie intérieure de l'âme, cette agitation elle-même devient pour nous l'occasion d'un plus intime rapprochement vers celui qui est devenu le principe de notre force et de notre courage. Et comme le Seigneur est la source infinie de la force, le principe éternel et immuable de toute énergie, il est impossible que dans ce contact intime et permanent, dans cette effusion totale de notre faiblesse dans le sein de Dieu, nous ne rencontrions pas une énergie vitale, une rénovation de courage que jamais la raison livrée à elle-même, ni les créatures, ne sauraient nous donner. On l'a très bien exprimé dans un langage, encore une fois, marqué un petit peu par un certain romantisme du siècle dernier, cette vérité fondamentale du christianisme, c'est par la prière de foi, que nous pouvons vraiment nous greffer sur le Christ et recevoir cette puissance, cette force du Christ dans notre vie. Et c'est ce qui permettait à saint Séraphin de Sarov de dire, la force de la prière est prodigieuse. Elle est plus puissante que tout ce qui existe. C'est elle qui fait descendre l'Esprit Saint. La prière de supplication est déjà inspirée par la présence de l'Esprit Saint en nous, mais son fruit, c'est la plénitude du don de l'Esprit. Dans la liturgie, c'est la prière de l'Église, par les lèvres du prêtre, dans l'épiclèse, dans l'invocation de l'Esprit, qui fait descendre l'Esprit Saint sur les saints dons, pour les transformer dans le corps et le sang du Christ. Mais dans notre vie, dans le détail de nos vies de chrétiens, c'est notre prière, c'est notre adhésion à la supplication intérieure de l'Esprit qui attire le Saint-Esprit en nous pour nous configurer, nous transfigurer à l'image du Seigneur. L'auteur que je viens de citer souligne que c'est la prière fervente, la prière venant du fond de l'être, du fond du cœur, qui a cette puissance et l'efficacité. Et ce à quoi il s'oppose, c'est une prière qui serait purement machinale, purement mécanique. Mais cela ne veut pas dire que notre prière, si faible soit-elle, soit sans valeur. Ce qui est condamnable, c'est une prière qui, par négligence consentie, qui par pure routine, n'est-ce pas, serait une prière... dont notre cœur est absent. Mais nous sommes des êtres fragiles et bien souvent notre prière pourra nous donner l'impression de n'être que du bout des lèvres. Nous aurons beau faire, il nous sera difficile de mettre notre cœur comme nous le voudrions dans notre prière. Et cela ne veut pas dire du tout que cette prière soit négligeable, qu'il faut se décourager et abandonner la prière. Et là, je ne puis que vous renvoyer aux trois récits inédits du pèlerin russe, le second petit volume qui a été publié en livre de poche, où cette vérité d'expérience chrétienne est reprise à plusieurs fois, dans divers passages. L'auteur de les interlocuteurs du pèlerin lui disent très fréquemment que toute prière, finalement, toute prière si fragile, si faible, si imparfaite soit-elle, a déjà quelque sorte quelque chose de cette force. Que dans toute prière chrétienne, il y a vraiment cette force de l'esprit, n'est-ce pas, qui agit secrètement. Et par conséquent, ne nous laissons jamais détourner de la prière par la crainte d'avoir une prière imparfaite, une prière trop faible, une prière trop routinière. Il ne faut jamais consentir volontairement, par négligence, à ce que notre prière soit sans grande qualité, mais si elle l'est malgré nos efforts, si elle l'est un peu malgré nous, n'est-ce pas, s'il y a de notre part tout de même ce désir de prier, quelles que soient nos difficultés, eh bien, à ce moment-là, notre prière, si pauvre soit-elle, est d'une puissance supérieure à tout ce que nous pourrions avoir dans nos vies spirituelles. Et saint Séraphin cite, n'est-ce pas, la prière d'une prostituée qui, rencontrant une mère dont on enterrait le fils unique, se met à dire au Seigneur, mais bien sûr, je ne te prie pas eu égard à ce que je suis, malgré toute ma misère, toute ma faiblesse, tout mon péché, et pitié de cette femme, et le Seigneur ressuscite le fils de cette femme. Donc une prière faite avec foi, dans l'humilité, quel que soit notre péché, quelle que soit notre faiblesse, est le grand levier de toute la vie spirituelle. Mais cette prière chrétienne, j'en disais un mot déjà tout à l'heure, revêt des formes différentes. Si, dans son essence, la prière est une simple attitude de l'âme, un acquiescement qui peut être silencieux de notre liberté à l'action de l'Esprit Saint, cette prière revêt, sous la motion même de l'Esprit Saint, des aspects divers. Tantôt, cette présence de l'Esprit en nous pourra prendre la forme d'un désir humble et suppliant de Dieu, de la force divine pour accomplir sa volonté, et tantôt, au contraire, cette prière éclatera en prière de louange, en prière émerveillée devant les dons de Dieu, devant ce que Dieu nous communique, réalise en nous et pour nous. Et la prière oscille au fond toujours entre ces deux formes. La supplication d'une part, la supplication du pécheur, la supplication du chrétien dans l'épreuve, et d'autre part, l'action de grâce, laquelle s'épanouit en louange, en louange désintéressée de Dieu, en émerveillement, en joie, devant ce que Dieu fait pour nous, devant les dons de la grâce, devant le don de Dieu qui nous est fait. Et de ce fait, on peut dire que notre prière a une sorte de rythme pascal. Car si la prière est suscitée en nous par l'Esprit, bien, l'Esprit Saint ne fait pas autre chose, finalement, que de nous faire communier à la prière même du Christ. L'Esprit Saint, éveille en nous une prière qui est une communion, une participation à la prière du Christ. Et la prière du Christ, telle que nous la voyons dans les Évangiles, telle que nous la voyons dans le Nouveau Testament, a aussi ce rythme. Il y a la prière du Christ durant sa vie terrestre et dans sa passion, la prière du Christ à Gethsémani notamment, qui est le type même de la prière de supplication. Et le Christ reprend lui-même d'ailleurs certaines formules des psaumes de supplication, parce qu'il est par excellence le suppliant. Saint Paul dira dans l'Épître aux Hébreux, n'est-ce pas, que le Christ est adressé au Père pour qu'il le délivre de la mort en poussant une grande clameur. Donc c'est là la prière de supplication, la bonne imploration par excellence, celle du Christ dans sa passion. Et puis, d'autre part, nous avons des psaumes aussi qui sont messianiques, qui expriment, qui nous révèlent le contenu de la prière du Christ dans sa résurrection. Ce sont ces psaumes de délivrance, ces psaumes de louange, d'action de grâce pour le juste, et le juste par excellence, c'est bien le Christ, qui est délivré de la mort, que le Père ressuscite, que le Père, par la puissance de l'Esprit, ressuscite d'entre les morts. Et par conséquent, la prière du Christ, voyez-vous, elle-même, a ce rythme, supplication d'une part, et action de grâce et louange d'autre part. Et la prière du chrétien est absolument modelée là-dessus. Au fond, il y a en nous un rythme de prière qui oscille toujours entre ces deux pôles. Parce que notre prière même est toujours communion au mystère du Christ, dans cette double phase de mort et de supplication dans la mort pour que le Seigneur nous en délivre, ça nous ressuscite, et d'action de grâce, lorsque la grâce de la résurrection, sous une forme ou sous une autre, se manifeste en nous. Par le don de la grâce, lorsque la puissance de l'Esprit se manifeste dans nos cœurs. Et je disais tout à l'heure, donc, cette prière du Christ se trouve parfaitement exprimée dans les psaumes, que le Christ a utilisé, qu'il a prié. On comprend par là que cette prière trouve en lui son achèvement, sa perfection. Mais justement, c'est toute la prière du peuple de l'Ancien Testament que le Christ, que l'Église, que le chrétien revient ainsi. Vous voyez toutes les dimensions de notre prière chrétienne. Notre prière la plus individuelle, finalement, est toujours communion à la prière du Christ, et dans laquelle toute la prière du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament se résume. Que ce soit les supplications collectives du peuple de Dieu poursuivis par Pharaon, n'est-ce pas, affrontés à la mort lors du passage de la mer Rouge, que ce soit la supplication du peuple de Dieu en exil, opprimé par ses ennemis, que ce soit la supplication du psalmiste individuel, malade, ou lui aussi opprimé par des ennemis, eh bien, tout cela converge à la prière du Christ, et c'est tout ça que nous revivons, et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'Église nous invite à utiliser si souvent la prière des psaumes. Et puis, d'autre part, l'action de grâce, la louange, mais cette louange du Christ ressuscité, résume, récapitule, pour prendre le mot de saint Irénée, la prière d'Israël, la prière de tout le peuple de Dieu délivré de sa vie de Pharaon, du peuple de Dieu revenant d'exil, du peuple de Dieu envisageant déjà la grande délivrance de la fin des temps, la grande délivrance eschatologique, et puis aussi la louange, l'action de grâce du psalmiste individuel, délivré de la maladie, délivré de ses ennemis, délivré de l'épreuve sous toutes ses formes. Et c'est pour cela que, encore une fois, nous pouvons sans cesse reprendre ces textes, ces psaumes, n'est-ce pas, qui ont toutes ces dimensions. Et notre prière la plus personnelle n'est jamais une prière individuelle, une prière solitaire, c'est une prière qui nous engage dans tout ce mouvement, n'est-ce pas, du peuple de Dieu. Saint Augustin, dans son commentaire des psaumes, a développé ça admirablement, c'est presque harcelant chez lui parce qu'il y revient sans arrêt, n'est-ce pas. Mais cette idée que il n'y a pas. Il n'y a, la juxtaposition de la prière du Christ, de l'Église et du chrétien, le fait qu'un, n'est-ce pas, et toute prière chrétienne, toute prière de ce qu'il appelle le Christ total, soit totus Christus, c'est le Christ et ses membres, c'est le Christ et l'Église allant depuis Abel jusqu'à la fin des temps, n'est-ce pas, et c'est cela qui s'actualise dans le présent, dans le moment présent, dans notre propre prière. Si la prière procède d'un cœur vraiment animé par l'Esprit Saint et animé de la charité divine, elle sera toujours accomplie en union avec tout le corps du Christ. Un chrétien n'agit jamais solitairement, sa prière ne tire jamais sa valeur devant le regard de Dieu, de sa seule ferveur personnelle. Si le Père, si Dieu l'agrée, c'est parce qu'il voit en tout homme son Fils qui prie, uni à tous ses membres. Et c'est certainement là l'une des choses qui sont les plus belles chez saint Augustin, n'est-ce pas ? Il y a des aspects de la pensée d'Augustin qui sont discutables, qui auraient demandé à être rectifiés et redressés en Occident dans une meilleure connaissance de l'ensemble de la pensée des Pères, mais c'est là, je crois, l'un des aspects où Augustin a un apport qui est à la fois profondément traditionnel, très en harmonie avec toute la tradition, mais qu'il a senti avec une acuité, avec une pénétration spirituelle unique. Et vous voyez comment, dans la liturgie, simplement, notre prière oscille constamment entre ces deux pôles, supplication et action de grâce. Ne serait-ce que par ces deux formules qui jalonnent tous nos offices, Kyrie eleison, Seigneur et pitié, c'est la supplication par excellence, si je puis dire, d'une part, et puis gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Alléluia. Toute notre prière est constamment traversée, c'est en quelque sorte la trame de notre prière, n'est-ce pas, d'une part le Kyrie eleison, le Seigneur et pitié, et puis d'autre part le gloire au Père et l'Alléluia. Quand nous récitons les psaumes à l'office, vous voyez ici quand nous célébrons les vigiles, on lit les psaumes où ces deux thèmes se trouvent développés, se trouvent entrecroisés constamment, mais chaque section du psautier se termine toujours par le gloire au Père, le Kyrie eleison, Alléluia, Alléluia, gloire à toi au Dieu. Tout se résume là. De même dans les prières initiales, qui à elles seules pourraient presque former une règle de prière quotidienne pour le chrétien qui a très très peu de temps, n'est-ce pas ? Saint Dieu, Saint Fort, Saint Roi Céleste d'abord, la prière pour demander l'Esprit Saint, qui est une véritable petite épiclèse, puis Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, une admirable prière de louange, Kyrie eleison, gloire au Père, de notre Père qui résume tout. Et à travers tout cela, nous retrouvons constamment entrelacés ces deux thèmes. Et justement, ils sont toujours entrelacés dans la prière chrétienne, parce que le chrétien est dans une situation d'entre-deux. D'une part, nous n'avons pas encore la plénitude du salut. Nous attendons toujours, et dans notre vie individuelle, et dans notre vie collective de l'humanité, l'accomplissement plus plénier du nom de Dieu. Dans notre vie personnelle, nous attendons le don de l'Esprit qui transforme toujours plus profondément notre cœur, qui nous fasse vivre toujours plus profondément sous sa motion. Et puis, au plan de l'humanité, nous attendons toujours la parousie, nous attendons le retour du Christ, nous attendons la transfiguration de la fin des temps. Donc, tout cela entraîne en nous une prière de supplication. Et d'autre part, déjà dans le Christ, déjà par l'incarnation du Christ, déjà dans nos vies personnelles, par le baptême, par l'entrée dans l'Église, par l'Eucharistie, par les sacrements, le don de Dieu nous est déjà donné. Déjà, nous avons expérimenté en nous, à certains moments de notre vie spirituelle, la présence vivante en nous de l'Esprit Saint. Et c'est cela, alors qu'il jaillit en nous sous forme d'action de grâce. Et les deux thèmes sont constamment mêlés. Même dans les psaumes, déjà, il y a certes des psaumes qui sont davantage des psaumes de supplication, d'autres psaumes qui sont davantage des psaumes d'action de grâce, mais très très souvent dans le même psaume, et d'une façon qui déjoue un peu toute logique trop rationnelle, on passe de la supplication à la louange, on revient à la supplication, on retourne à la louange. Tout ceci s'explique très très bien, justement, si on a conscience de cette situation qui est la nôtre, déjà sauvée initialement, en germe, et puis d'autre part, d'être toujours en attente de l'accomplissement ultime de ce salut. Donc, les deux thèmes fondamentaux de notre prière. Pour ce qui est de la prière de supplication, qui sera tout de même peut-être notre prière terrestre la plus caractéristique, la prière de louange, d'action de grâce, est déjà une anticipation de la prière du ciel, de la prière de la Jérusalem d'en haut. Et ici-bas, ce qui est le plus proportionnel, quand ils sont terrestres, c'est tout de même la supplication. Bien, je dirais que pour ce qui doit marquer profondément cette supplication, c'est d'une part la confiance et d'autre part la persévérance. La confiance. Il faut que notre prière soit profondément pénétrée de la certitude d'être exaucée, d'être aimée de Dieu et par là même, en raison de cet amour du Père pour nous, la certitude que notre prière est exaucée. Si elle n'est pas exaucée exactement de la manière que nous demandons, n'est-ce pas, c'est parce que nous devons d'abord entrer dans le dessein de Dieu. Et si nous demandons dans la prière que la croix nous soit toujours épargnée, ce ne serait pas une prière chrétienne, parce qu'il n'y a pas d'autre voie du salut concrètement pour nous pécheurs que, que la voie de la croix. Mais il reste que notre prière, sous une forme ou sous une autre, atteint toujours le Père, est toujours écoutée de lui, et est toujours exaucée dès lors qu'elle procède de la foi, qu'elle est faite avec foi. Et nous devons fonder cette foi sur la parole de Dieu, sur la parole du Christ. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Demandez et vous recevrez, et votre joie sera parfaite. Ceci dans le chapitre 16e de Saint Jean. Et puis il y a ce texte encore plus étonnant qu'on trouve dans les synoptiques. Je vous le cite d'après l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 21. C'est après l'épisode du figuier desséché, l'épisode un peu étrange. Le Seigneur dit à ses disciples, « En vérité, je vous le dis, si vous avez une foi qui n'hésite point, donc cette foi, cette confiance dans la parole de Dieu, dans sa promesse, est fondamentale pour l'exaucement de la prière, si vous avez une foi qui n'hésite point, non seulement vous ferez ce que je viens de faire au figuier, mais même si vous dites à cette montagne, soulève-toi et jette-toi dans la mer, cela se fera. Et tout ce que vous demandez dans une prière pleine de foi, vous l'obtiendrez. » L'expression est sémitique, bien sûr, dans l'image qui est employée, mais il y a derrière cela, ce n'est pas une exagération oratoire, c'est une promesse du Seigneur d'exaucer toute prière faite avec foi et toute prière faite en son nom, c'est-à-dire justement dans la communion consentie à cette prière de l'Esprit, cette prière du Christ qui est en nous. Donc, prière à faire toujours avec confiance. Et je dirais ceci, non seulement quand il s'agit de demander une grâce d'ordre spirituel, délivrance d'une tentation, progrès dans tel ou tel aspect de notre vie chrétienne, mais même quand il s'agit simplement de nécessités matérielles. Et la prière de demande pour des choses matérielles n'est pas du tout à exclure de notre vie chrétienne. Ce n'est pas du tout une prière que nous devrions faire d'une façon très, je dirais, très conditionnelle et avec hésitation. Car si nous vivons vraiment en enfant de Dieu, eh bien cette tendresse paternelle de Dieu enveloppe toute notre vie sous tous ses aspects. Et autant il serait bien sûr anormal de ne prier que pour des choses matérielles, autant il serait blâmable d'en faire une sorte de rite magique, n'est-ce pas, dans le domaine de la vie courante. Autant la prière pour nos nécessités matérielles est bonne et nécessaire si elle se trouve replacée dans le contexte d'une vie chrétienne fervente. Il faut accorder la priorité au royaume de Dieu, même que le Seigneur a promis de donner le reste par surcroît, et dans le Notre Père, on a cette demande, qui peut être traduit de bien des façons, que les pères ont très souvent comprise de cette manière, donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, notre pain nécessaire à notre subsistance. Cela vaut, bien sûr, pour le pain spirituel, pour le Christ, qui est la nourriture de notre âme, soit dans l'Eucharistie, soit simplement par sa grâce, mais cela vaut aussi, et c'est le sens, je dirais, immédiat du texte, pour le pain matériel, pour la nourriture quotidienne que nous devons savoir demander au Seigneur. Et c'est une exigence, cette attitude filiale que nous devons avoir à l'égard du Père, de le sentir proche de nous dans nos nécessités les plus quotidiennes. Et par conséquent, de prier ainsi pour des choses matérielles est parfaitement légitime, et là encore, nous devons le faire avec cette foi et cette confiance d'être exaucés. Il nous exaucera comme il le voudra, de la manière qu'il voudra et quand il voudra, mais notre prière doit être animée de la même foi dans les choses les plus simples que lorsqu'il s'agit de réalités beaucoup plus spirituelles. Et dans cette prière aussi, nous devons, si nous nous adressons au Seigneur, nous pouvons aussi demander l'intercession des saints. L'intercession des saints, n'est-ce pas, à la fois pour les choses d'ordre spirituel, mais aussi pour des choses d'ordre matériel. Et ce n'est pas là du tout d'évaluer la prière. Ce n'est pas une forme de prière inférieure, c'est simplement être conscient, n'est-ce pas, de cette communion des saints dans laquelle nous sommes et du fait que toute notre vie baigne finalement dans ce monde spirituel, mais qui est un monde bien réel, tout aussi réel que le monde qui tombe directement sous nos sens. Il y a, à propos de l'intercession des saints, il y a un admirable texte de Peggy dans ses œuvres en prose, qui est un des passages où Peggy a un sens très très profond et très orthodoxe de l'Église, où d'une part il dit qu'un homme vertueux, mais qui n'est pas chrétien, qui n'est pas animé de l'Esprit intérieur de l'Esprit Saint, n'est au fond qu'un philosophe et un sage, mais il n'est pas un chrétien. Tandis qu'un chrétien pécheur, eh bien, c'est quand même vraiment un chrétien, et que l'Église est faite inséparablement des pécheurs et des saints. Et que l'Église, c'est précisément les pécheurs tenus par la main par les saints et entraînés par les saints. Et par conséquent, de donner une grande place dans notre prière à l'intercession d'abord de la Mère de Dieu et ensuite d'autres saints, et de saints qui nous sont plus proches, qui se sont quelquefois manifestés d'une façon ou d'une autre dans notre vie, est aussi quelque chose de profondément chrétien. Et tout cela a sa place dans une prière de foi, une prière véritablement chrétienne. Donc, l'importance de la... Ceci est un peu une digression, l'importance de la foi, de la confiance dans la prière. Et puis de la persévérance aussi. Parce que trop souvent, si notre prière n'est pas exaucée, c'est qu'elle n'est pas assez persévérante. N'oublions pas que nous sommes des hommes qui vivons dans le temps. Nous ne pouvons pas exprimer quelque chose, sauf dans des cas particuliers, à des moments où j'ai un peu privilégié notre existence, nous ne pouvons pas en un instant, en un clin d'œil, exprimer quelque chose avec une intensité extrême. Et souvent, l'intensité là, devra se manifester par la durée, par la persévérance. Et c'est au fond ce qu'exprime la parabole de la pauvre veuve et du juge dans l'Évangile, n'est-ce pas, où le Seigneur nous donne en exemple cette veuve qui supplie un juge de lui rendre justice et le juge ne l'écoute pas et elle persévère inlassablement, enfin le harcèle de sa supplication, si bien que finalement le juge se dit, n'est-ce pas, j'ai beau ne pas craindre Dieu et me moquer des hommes, néanmoins, comme cette veuve m'importune, je vais lui faire justice, pour que ne vienne pas sans fin me rompre la tête. Avec un certain humour, le Seigneur applique cela à notre prière, à nos rapports avec le Seigneur, et nous dit, écoutez ce que dit ce juge inique. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit, tandis qu'ils temporisent leur sujet. Donc il faut savoir prier, n'est-ce pas, inlassablement, revenir à notre prière, parce que c'est à travers cela que s'exprime l'intensité de notre foi, que s'exprime l'intensité de notre désir. Une prière qui est en passant, simplement, brièvement et sans y revenir, risque au moins, sauf si on est dans un état spirituel un peu privilégié, de ne pas avoir tellement d'intensité. Et en beaucoup de cas, l'intensité, la ferveur ne dépend pas tellement de nous, et le seul moyen de manifester, d'exprimer combien notre prière est pénétrée de désir, combien notre prière est tout de même ardente finalement, eh bien, c'est de l'étaler dans le temps, c'est d'y revenir, c'est d'y revenir fréquemment. Donc, important de la persévérance dans la prière. Et puis le Seigneur, pour nous mettre à l'épreuve, cette épreuve auquel fait allusion l'Évangile de ce matin pour l'élection de la parole de Dieu, n'est-ce pas, bien le Seigneur temporise, nous exauce pas tout de suite pour justement nous faire progresser, pour que la prière s'enracine davantage en nous. Donc ne jamais se décourager, ne jamais se lasser, même si on n'est pas exaucé rapidement. La persévérance, la durée de la prière est une condition qui est inhérente à la prière chrétienne, étant donné ce que nous sommes ici. En fait, nous sommes des êtres qui vivent dans la durée, qui vivent dans le temps. Et pour nous, la qualité, souvent, n'a pas d'autre moyen de s'exprimer que la quantité. La quantité sans la qualité ne vaut rien, mais souvent, la qualité requiert la quantité. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas avoir peur de beaucoup prier, de prier avec instance et longuement. Et c'est pourquoi il faut finalement, n'est-ce pas, que la prière pénètre toute notre vie, que nous soyons vraiment des hommes de prière. Et à ce sujet, je vous redirai encore ici un passage d'un auteur français du siècle dernier, qui lui aussi était très pénétré de la grande tradition chrétienne sur la prière. Tous ces auteurs spirituels français ont beaucoup lu Saint-Cassien, ont beaucoup lu les Pères, finalement. Et à travers eux, mais soit dans un langage qui est peut-être plus proche que celui d'auteurs du 4e, 5e siècle, retrouvons cette grande tradition. Et voici ce qu'écrit l'un de ces auteurs. Tout le secret de la paix du cœur, de l'avancement dans la vie spirituelle, est dans le saint courage de la prière. Je dis courage, car je sais ce qu'il en coûte d'abandonner ses pensées, ses réflexions. On veut réfléchir, se rendre compte, et Dieu qui nous a placés ici-bas dans un état de foi, veut que nous prions. Dans quel endroit de l'Évangile est-il dit de penser, de raisonner ? Il y a un seul endroit, c'est la parabole de la tour. Vous savez, il faut réfléchir en conscience. Toutes vos sollicitudes, tous vos soucis, jetez-les, c'est le mot, jetez-les en Dieu. C'est bien simple de prier, mais c'est la chose la plus difficile, la plus rare. Donnez-moi un homme de prière, ou plutôt donnez-moi l'homme le plus imparfait, si cet homme sait se jeter dans la prière, s'il sait changer ses peines, ses souffrances en prière, je suis rassuré, sa place est inscrite au ciel. Il y a dans cette âme, s'il y a dans cette âme disposition à la prière, il y a donc disposition à acquérir de grandes vertus, toutes les vertus, tous les biens de l'esprit. Ils sont tous dans la prière. Quand vous voudrez penser, réfléchir, jetez-vous à genoux et dites, je ne penserai pas, je prierai. La nature se révolte parce qu'à certains moments, elle a horreur de la prière. Mais avons-nous besoin d'un autre exemple que celui du Seigneur au Jardin des Olives? Que fait-il? Il se prosterne la face contre terre et étant réduit à l'agonie, il prolonge sa prière. Vous êtes agité, troublé, vous avez horreur de la prière. Faut-il raisonner? Non, il faut se jeter à genoux, avec ennui, dégoût peut-être, prier contre soi-même. Mais prier, vous n'avez pas d'excuse pour vous éloigner de ce saint exercice. Vous avez besoin de refuge, d'appui, où le chercheriez-vous? Dans vos raisonnements? Mais c'est là que le démon se met, que la faiblesse travaille, c'est l'atelier d'où sortent toutes les fautes. Laissez tout cela, priez, faites effort, violentez-vous pour sortir de vous-même. Il faut un très grand courage pour changer en prière ses impressions, mais prenez cette habitude. Dites-vous une bonne fois, quoi qu'il arrive, je ne me perdrai pas dans mes découragements et mes retours sur moi-même, dans toutes mes réflexions et mes raisonnements. Quand mon âme sera agitée, tourmentée, vite je déposerai mes pensées pour me jeter dans la prière comme on court pour se sauver. Le souvenir de vos fautes vous décourage, vous craignez de ne pas suivre la voie de Dieu, laissez tout cela, croyez en Dieu, priez. Et souvenez-vous toute votre vie que quoi qu'il arrive, quelque faute, quelque faiblesse que vous ayez à vous reprocher, il n'y a pas de mal sans remède devant Dieu. Mais il a mis une condition à son secours, c'est la prière. Demandez-lui inlassablement ce dont vous avez besoin, priez comme vous pourrez, et persévérez, ne vous arrêtez pas. Commencez le matin à votre réveil, continuez pendant le jour, à travers vos occupations les plus variées, les plus multipliées. Priez en allant et venant, en accomplissant les devoirs de votre position, partout et toujours. Vous voyez cette insistance sur la continuité dans la prière, n'est-ce pas, qui est au fond le seul moyen d'obtenir cette force de Dieu, cette lumière de Dieu, alors que tous nos raisonnements, toutes nos réflexions ne peuvent généralement que nous enliser dans nos propres problèmes. Enfin, pour terminer, je dirais qu'il faut précisément que la prière soit liée à toute notre vie, liée à toute notre vie de la façon que je viens de dire, en mêlant un peu toutes nos occupations dans la mesure du possible, d'une prière, d'une élévation de notre cœur vers Dieu. Mais lien de la prière et de la vie aussi, en ce sens qu'on ne peut pas isoler la prière de tout l'effort de la vie spirituelle. Il y a une interaction constante entre les deux. Nous ne pouvons progresser dans la vie spirituelle que si nous prions. et nous ne pouvons prier authentiquement que s'il y a un effort sur, je dirais, tous les terrains, dans tout l'ensemble de notre vie spirituelle. C'est un peu ce que le Seigneur disait, là encore, dans la prière après la scène, n'est-ce pas ? Si vous gardez mes commandements, bon, le Père exaucera vos prières. Et d'autre part, nous pouvons garder les commandements que si nous restons greffés sur le Christ par la prière. C'est normal, il y a ce qu'on pourrait appeler une sorte d'interaction, n'est-ce pas, entre les deux choses. Donc, la prière ne sera vraie, ne sera authentique, que si elle s'accompagne véritablement de cet effort spirituel pour faire fructifier la grâce reçue grâce à elle et en même temps en demandant cette grâce. Et l'un des grands maîtres spirituels du malachisme ancien, du malachisme du 5e, 6e siècle, saint Arsène de Gaza, disait ceci. La prière parfaite consiste à parler à Dieu sans distraction, en recueillant toutes ses pensées et tous ses sens. Et ce qui y mène, c'est de mourir à tout homme, de mourir au monde et à toutes les choses du monde. Et qu'entend-il par là ? Ne pas juger ni mépriser personne, et ne pas être attaché à sa volonté propre, c'est cela, mourir aux hommes en étant parmi eux. Donc, pour que la prière puisse devenir une prière vraiment authentique, une prière parfaite, eh bien, il faut qu'il y ait ce renoncement constant à nous-mêmes, à notre moi, à notre égoïsme, à notre propension à nous imposer aux autres, à leur imposer nos volontés, à juger les autres, à condamner. On est là au cœur de l'effort spirituel tel que les pères nous le dépeignent. Et c'est dans la mesure où cet effort spirituel est réalité pour nous, soutenu lui-même par la prière, que nous pouvons accéder à une prière vraie, sans distraction, à cette prière du cœur dont nous parlerons bientôt. Merci pour aujourd'hui. Avez-vous des réflexions, des compléments?
Je vous prie de m'excuser, je voudrais surtout que vous me disiez ce que vous avez dit concernant mourir.
Cette formule de Saint Barthélemy, donc il dit que ce qui mène à la prière, c'est de mourir à tout homme, de mourir au monde, à toutes les choses du monde, et alors il ajoute, ne pas juger ni mépriser personne, et ne pas être attaché à sa volonté propre, c'est cela, mourir aux hommes en étant parmi eux. Mourir aux hommes pour un père du désert, ça ne signifie pas ne pas s'occuper des autres au bon sens du mot, mais ça signifie ne pas les juger, ne pas les condamner, n'est-ce pas, et ne pas leur imposer sa volonté. Tout à fait autre chose que d'être indifférent à leur égard.
Si vous avez, au début de votre exposé, distingué la façon de prier des chrétiens et la façon de méditer des bouddhistes, par exemple, que pensez-vous des chrétiens qui mettent leur confiance dans les techniques de méditation hindoues ou bouddhistes ?
C'est une chose délicate parce que, en réalité, ces méthodes de méditation ont été élaborées avec beaucoup d'ailleurs de soins et de grandes compétences techniques pour un but précis, n'est-ce pas, qui est de faire parvenir par l'application de technique à une expérience intérieure de non-dualité entre soi et l'absolu, n'est-ce pas. Par conséquent, sur ce plan-là, le but n'est pas le même, et par conséquent, on ne voit pas pour que ça risque au contraire de nous égarer plus tôt. Et il existe d'autre part des postures, des méthodes traditionnelles de prière chrétienne, mais explicitement chrétiennes, qui elles sont ordonnées au but de la prière chrétienne. Donc je ne pense pas que dans l'ensemble il y ait tellement à tirer profit de cela, et qu'au contraire ça peut égarer gravement parfois. Simplement ce qu'il faut dire, c'est que ces grandes religions traditionnelles ont un sens très profond de l'union du corps et de l'âme quand même, n'est-ce pas, et de l'importance de techniques mettant en œuvre non seulement le psychisme humain, mais tout l'être humain. Et alors là, c'est une vérité, je dirais, universelle, qui se vérifie aussi bien pour le chrétien que pour le bouddhiste ou le musulman, ou n'importe, n'est-ce pas. Et par conséquent, il pourra y avoir aussi des points communs entre ces méthodes et les méthodes chrétiennes. Par exemple, aussi bien dans le bouddhisme que dans le soufisme musulman, vous avez la répétition du nom divin, de l'invocation au nom divin, n'est-ce pas, que vous retrouvez dans la prière de Jésus. Mais la ressemblance est, je dirais, réelle dans la mesure où, de part et d'autre, on emploie un langage simplement humain et fondé sur la nature humaine, donc qui est commun, mais il y a quand même un contenu très différent de part et d'autre. Mais je ne pense pas que l'on puisse, avec fruit, utiliser de façon très, très, très approfondie, et très, avec la rigueur voulue, par exemple, les méthodes du zen, pour aboutir à l'état chrétien. C'est d'employer une méthode qui est faite pour quelque chose, pour une fin très, très différente finalement. Ou alors il faudrait. Alors, c'est la position de certains maîtres spirituels bouddhistes. Par exemple, je vois pas Taizen de Shinabu tout à l'heure, et Taizen me disait, mais au fond, peu importe que celui qui pratique le zen soit chrétien ou bouddhiste ou musulman, ou peu importe, puisque l'expérience spirituelle à laquelle il parvient est une expérience qui transcende toutes les dogmes, qui transcende toutes les... C'est une expérience spirituelle en soi qui, en elle-même, est indifférente à un contenu dogmatique, le dogme étant au niveau du mental, n'est-ce pas, n'ayant plus d'importance à ce niveau-là. Et c'est une position qui, par elle-même, le bouddhisme n'est pas chrétien. Et un chrétien ne peut pas accepter cette vision des choses. Et de très bonne foi, Taizen de Shimaru disait que pour lui, il peut lui apporter que dogmatiquement ses disciples soient chrétiens, puisque ce à quoi il conduisait était au-delà de toute expression mentale, mais le chrétien ne peut pas faire abstraction de sa foi. Oui. Oui. Eh bien, au sens que le chrétien n'est jamais seul, n'est-ce pas? Quand un chrétien a pris, même dans le secret de sa cellule, n'est-ce pas? Il est vraiment membre du Christ, membre de toute l'Église, et sa prière est une prière d'une certaine manière qui le met en communion avec toute l'Église. Il y a un très très beau texte d'un auteur médiéval, le Pierre Damien, du XIe siècle à peu près, un peu, j'ose dire, contemporain de la rupture entre l'Occident et l'Orient, et ce Pierre Damien a composé un petit traité, au premier abord très curieux. Un ermite lui pose la question, quand un ermite récite l'office divin dans sa cellule, l'office latin, puisque il appartenait à l'église latine, doit-il respecter tout le texte et dire en particulier « Dominus obiscum, le Seigneur est avec vous » et se répondre « et avec ton esprit » puisqu'il est seul. Et Pierre Damien lui dit, eh bien, même quand le chrétien a pris seul dans sa cellule, il n'est pas seul, il a tout le corps du Christ avec lui, en union avec toute l'Église, et par conséquent, il peut le faire d'une façon symbolique pour exprimer que ce n'est pas une prière individuelle, mais que sa propre prière reste une prière où tout le corps de l'Église, tout le corps du Christ est engagé. Bon, ça n'est pas nécessaire artificiel de toute manière, mais l'idée est extrêmement belle quand même. Et pour lui, l'ermite peut dire le Seigneur soit avec vous et se répondre et avec ton esprit, parce que tantôt il parle en son nom propre et tantôt au nom de toute l'Église. Les deux étant absolument inséparables.
Oui. Je voudrais vous poser la question. Que pensez-vous de la parabole entre le Lazare qui était pauvre et le riche qui était en enfer?
Oui.
Et Lazare n'a pas pu tellement intercéder pour le riche.
Oui.
Disons qu'il avait un fossé entre les deux. Et finalement, la prière du riche, c'est...
Oui. Mais, n'est-ce pas, dans ce texte, enfin, il faut prendre les paraboles exactement en tenant compte de la pointe de la parabole, ce que le Seigneur veut enseigner dans telle parabole particulière. Et là, ce qui est enseigné, n'est-ce pas, c'est... Lazare n'intercédait pas pour le défunt au sens d'une prière pour le défunt, pour son salut. Lazare, ce n'est pas ça qui est en cause, c'est le riche qui demandait, n'est-ce pas, que Lazare aille prêter ses frères pour le défunt, ce lieu redoutable. Mm-hmm. Et là, ce que le Seigneur veut simplement montrer, c'est chacun est responsable de lui-même et a suffisamment déjà d'éléments pour que sa liberté étant sauve, il se détermine lui-même en face du salut et en face de l'option qu'il a à faire. Et qu'un miracle, Dieu n'a pas besoin de faire un miracle dans ces cas-là, au contraire, de laisser simplement la loi, les prophètes, la disposition de chacun, est un moyen suffisant et qui respecte la liberté de chacun. Donc les frères du mauvais riche avaient eux-mêmes à faire leur option sans que Dieu intervienne par un miracle qui, en quelque sorte, contraint leur liberté. Et ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas intercéder pour aider les fins. Là, c'est autre chose. C'est
oui, mais le riche, tout de même, il voulait avoir un tout petit peu être aidé, finalement.
Il aurait voulu être aidé, mais sans qu'il y ait aucun repentir, ni aucun changement de sa part, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'objet de la parabole, là, ne concerne pas du tout la prière pour les défunts ou le problème de l'intercession. C'est plutôt ce que le Seigneur veut enseigner, c'est que chacun doit se déterminer librement à partir de ce qui est donné à chacun, qui est suffisant pour que nous puissions prendre la décision que nous voulons. Et que Dieu n'a pas à intervenir par un miracle, et qu'un miracle, au fond, ne servirait à rien dans des cas comme ça. Mais le problème, je parle de la prière et de l'intercession, est en dehors des perspectives de la parabole. Mais il y a d'autres textes de l'Écriture qui, eux, recommandent très fortement la prière des défunts. Oui.